présenté par Alain Roum.
Bonsoir. Élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama réélu pour un second mandat de 4 ans. Dans son discours, il a promis de travailler avec les leaders des deux partis pour affronter les défis qui se présentent devant la nation américaine. Son adversaire, le républicain Mitt Romney, a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Quelles leçons peut-on tirer de cette élection ? Que faut-il attendre du deuxième mandat de Barack Obama s'agissant de la situation sécuritaire en RDC? Pour en parler, nous recevons le professeur Chibangu Kalala, professeur de droit international à l'Université de Kinshasa. Il est avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles. Il est aussi président du parti politique Notre Beau Pays, parti proche de la majorité présidentielle. Professeur Chibangu, bonsoir.
Bonsoir, Alain Young.
Professeur Arsène Mouaka, professeur des sciences politiques à l'Université de Kinshasa. Il est député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur Mouaka, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Professeur Komi Toulabor, directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde, à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux à travers le monde. Professeur Komi Toulabor, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Partout au monde, vous nous suivez sur radiocapi.net. Bienvenue à tous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Vous le savez, Barack Obama garde son fauteuil. Selon les résultats définitifs, il est réélu président des États-Unis avec 332 voix de vote des grands électeurs contre 206 pour le candidat républicain. Dans son discours, il a notamment promis de travailler avec les leaders des deux partis pour affronter les défis qui se présentent devant la nation américaine. On écoute le président américain Barack Obama dans cet extrait recueilli et traduit par nos confrères de RFI.
Tonight. Ce soir, que vous ayez voté pour moi ou non, sachez que je vous ai entendu. Sachez que j'ai appris de ce que vous aviez à dire et que vous avez fait de moi un meilleur président. En ayant écouté vos histoires, en ayant écouté vos luttes, je retournerai à la Maison Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour faire advenir notre avenir. Alors ce soir, vous avez voté pour le changement, pour l'action, et non pas pour la politique politicienne habituelle. Vous voulez que nous nous concentrions sur vos emplois, pas sur les nôtres en tant que décideurs politiques. Et sachez qu'au cours des semaines qui viennent, je travaillerai avec les leaders des deux partis pour affronter les défis qui se présentent devant nous, pour réduire le déficit, pour réformer la fiscalité, pour réformer les lois sur la migration. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. J'ai toujours pensé que c'est dans la difficulté que l'on pouvait faire vivre l'espoir. Tant que l'on a le courage, la détermination nécessaire pour continuer de lutter dans la difficulté.
Voilà, c'était le président américain Barack Obama dans cet extrait recueilli et traduit par nos confrères de RFI. Pour sa part, le républicain Mitt Romney a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Il a ajouté, je cite, « C'est un moment de grand défi pour l'Amérique et je prie pour que le président réussisse à guider notre nation. » Fin de citation. Professeur Chibangu Kalala, vous êtes professeur de droit international à l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa et de Bruxelles, président du parti politique Notre Beau Pays, parti proche de la majorité présidentielle. Quelles leçons vous avez tirées de cette élection?
Eh bien, merci Alain Young pour m'avoir invité à cette émission. Eh bien, j'ai tiré quelques leçons que je voudrais partager avec les auditeurs de Radio Capi. Première leçon, c'est une leçon de stabilité et de régularité des institutions politiques américaines. Je suis un grand admirateur des institutions politiques américaines. Alain Young, sachez que c'est depuis près de 235 ans, plus de presque deux siècles et demi, qu'on organise aux élections, aux États-Unis, des élections présidentielles tous les 4 ans, sans aucune interruption, sans blocage, rien, totalement. Et les États-Unis possèdent la plus vieille constitution du monde, qui date du 17 septembre 1887, qui n'a jamais été changée. Évidemment, on a fait quelques amendements, quelques modifications, mais c'est toujours la même constitution, près de plus de 2 siècles. Et donc, ça force l'admiration. Et c'est une leçon qu'il faut retenir, la leçon de stabilité, de régularité, de l'organisation des élections à intervalles réguliers, sans rupture. Deuxième leçon que j'ai retenue, c'est la leçon de courtoisie et de respect mutuel entre candidats. On a vu tout le long de cette campagne, aux États-Unis, aucun candidat, ni Obama, ni Mitt Romney, n'a prononcé aucune phrase de dénigrement, d'insulte, d'humiliation à l'égard de l'autre. Courtoisie et respect mutuel. Et je crois que c'est une leçon que nous devons retenir, surtout dans notre pays où il y a trop d'activistes politiques. Et je saisis cette occasion pour dire aux acteurs politiques congolais de retenir la leçon de Machiavel, qui a dit, par exemple, qu'il ne faut jamais chercher à humilier un adversaire politique si vous n'êtes pas en mesure de le détruire complètement. Sinon, vous en faites un ennemi à mort. Et voilà, vous avez vu, à la fin des élections, les deux candidats se sont félicités mutuellement. Et Obama a même dit, on vient de le répéter, qu'il est prêt à travailler avec Mitt Romney. Tout ça, c'est parce que ces deux candidats, indépendamment des divergences d'opinion, du fait que chacun défendait son propre plan et combattait les idées des autres, c'était un débat limité au débat d'idées, projet contre projet, idée contre idée, mais pas d'attaque personnelle, pas d'humiliation. Troisième leçon, c'est la leçon du caractère libre, honnête et transparent des élections américaines. Nous avons vu qu'il n'y a pas eu de contestation, qu'il n'y a pas eu de critique de fraude, etc. Tout s'est très bien passé. Évidemment, ce n'est pas le paradis, mais tout s'est très bien passé. Le candidat qui a perdu l'élection a félicité le gagnant et tout est rentré dans l'ordre. Et nous devons méditer aussi cette leçon pour notre propre pays, en tout cas pour les démocraties africaines. Quatrième leçon. Nous avons vu tout au long de cette campagne, que ce soit la campagne présidentielle ou les élections législatives, parce que c'est surtout l'élection présidentielle qui a pris le devant, mais au même moment, il y avait aussi des élections parlementaires qui se passaient. Eh bien, pendant la campagne, il n'y a pas eu de distribution d'argent. Aux États-Unis, M. Leirung, c'est le peuple qui donne l'argent aux candidats, et pas l'inverse. Dans notre pays, c'est le contraire. Les candidats vendent des maisons, vendent des voitures pour avoir l'argent à les distribuer dans les villages, n'est-ce pas? Mais au sein de c'est le contraire. C'est un autre monde. Et donc, c'est une leçon. Il n'y a pas d'achat de conscience. On n'achète pas le vote avec les pagnes, avec les sacs de riz ou de sel ou avec des tôles. Eh bien, ça, c'est une leçon importante qu'il faut retenir. Cinquième leçon, bonheur. Eh bien, on fait la politique aux États-Unis, on a vu, ce n'est pas pour aller gagner de l'argent en politique. Au contraire, on fait la politique, c'est pour servir la communauté, pour rendre service. Le cas de Mitt Romney, qui est multimillionnaire en dollars, il n'a pas besoin de gagner de l'argent pour faire la politique, mais il va, c'est pour s'engager, pour essayer de travailler pour le pays.
Alors, professeur, avant que vous ne puissiez continuer, juste une question de curiosité. Il y a beaucoup d'auditeurs dans les réactions que nous avons reçues. Il y en a qui pensent que les États-Unis c'est loin et qu'on aurait tort de s'intéresser à ces scrutins. Quel est votre avis?
Non, pas du tout. Vous savez, les États-Unis c'est la première puissance du monde. On a vu il y a depuis 2008 et 2009 la crise qui s'est déclenchée aux États-Unis, la crise des subprimes, des crises immobilières, a fait tache d'huile à travers le monde. Les effets négatifs de cette crise sont arrivés jusque chez nous, en Europe et dans le monde. L'économie mondiale a beaucoup souffert de cette crise mondiale qui est partie des États-Unis. Et donc, les États-Unis étant le numéro un du monde, tout ce qui se passe aux États-Unis intéresse le monde. Je crois peut-être qu'on pourra aborder cette question dans la deuxième partie. Et donc, c'est très important, on ne peut pas ne pas s'intéresser. Je reviendrai sur ce sujet dans la deuxième partie. Je vais terminer, Léon, pour
je
dire que il y a l'élection qui s'est passée. On a choisi Obama, non pas à cause de la couleur de sa peau. Ce n'a pas été un choix tribal ou ethnique, le président. On a vu l'homme, ses idées, son profil, qu'est-ce qu'il peut faire pour le pays, on l'a choisi pour là. Et donc, c'est une leçon que nous devons tirer, nous aussi, dans notre pays. Lorsque nous choisissons nos dirigeants, il faut voir l'homme, mais pas voir ses origines tribales ou ethniques. Et voilà. Ça, c'est très important pour l'avenir. Je termine par les sondages.
Souffrez, professeur, que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole sur les sondages dans le prochain tour de table. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes professeur des sciences politiques à l'Université de Kinshasa, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Vous avez suivi les leçons que le professeur Tshibangu a évoquées pour sa part. Quant à vous, quel est votre point de vue?
Oui, je voudrais saluer tout... les amis américains qui nous suivent à ce moment, puisque eux, ils ont la fierté d'avoir un pays dont ils sont dignes. Et les élections qui viennent de se passer montrent à quel niveau leur démocratie s'est développée et a bien évolué. Et nous, comme Congolais, en train de nous exercer sur la voie de la démocratie, je crois qu'il y a bien des leçons que nous pouvons tirer. Je vais souligner 4 leçons que nous pouvons tirer. La première des leçons, c'est de voir comment les machines électorales américaines roulent. Moi, c'est ce qui me marque le plus souvent, étant donné que dans ces élections, en fait, on constate que le parti politique sélectionne les meilleurs parmi ses fils. C'est-à-dire, la première sélection se passe au sein des partis politiques. On n'a pas 33 candidats comme dans notre pays, on n'a pas comme ça autant de candidats fantaisistes, mais on se retrouve en fait avec des candidats qui croient être le meilleur, parce que il faut quand même avouer que sur le plan de la moralité publique, les États-Unis constituent un modèle, parce que si tu as des choses qui ne vont pas, eh bien tu es dénoncé bien avant. Et donc ceux qui arrivent en tête, et principalement les deux qui viennent des démocrates et des républicains, sont déjà qui sont quand même passés par l'épreuve de feu. Et donc, je semble croire que nos partis politiques devraient tirer cette leçon pour que des gens ne puissent pas s'improviser à la tête des partis pour dire qu'ils deviennent des candidats des partis politiques sans aucune compétition à l'intérieur, sans quoi que ce soit. Il suffit d'être fort et parfois être le propriétaire du parti pour se déclarer soi-même candidat, et comme à l'époque du Imper, il y a une motion de soutien qui s'improvise dans ce qu'on appelle concret, qui n'est pas du tout des concrets qui précèdent les élections. La deuxième leçon, c'est la véritable élection d'Obama. Je crois que c'est maintenant que Obama est élu. Il a été élu et je crois que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été un effet de surprise. Il a dû débattre, comme le professeur Tshibangu venait de le souligner, ses idées contre idées, ses programmes contre programmes, qu'Obama vient d'être élu. Et moi, ce qui me marque, c'est qu'il ne va pas se débarrasser de sa peau, il est noir. Et donc, cette fois-là, les Américains choisissent ces noirs à face des blancs. Et donc, ça signifie que cette démocratie a réellement évolué. Parce que pour moi, je pensais que ça pouvait encore jouer de voir qu'il y a un des meilleurs dignes de l'Amérique, notamment Mitt Romney, qui se retrouve à face une fois de plus d'un Afro-Américain, et que ça pouvait cette fois-là jouer pour dire, bon, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Mais curieusement, l'élection s'est très bien passée pour Obama.
Troisième leçon,
c'est l'organisation. Je crois que c'est là que nous avons le plus à tirer. Je suis très content puisque notre CENI a été invitée et j'espère qu'elle-même, elle va tirer les leçons sur le terrain, puisque on a appris, et nous tous nous avons appris, qu'il y a eu des vents violents qui ont comme ça ravagé des maisons en Amérique. Mais tous ces gens ont voté, là des véhicules, là de quoi, mais on n'apprend pas qu'il y a tricherie, on n'apprend pas des gens qui contestent, ainsi de suite. La quatrième leçon, c'est en fait l'acceptation des résultats. Parce que nous devons aussi apprendre à avoir la culture d'accepter l'échec. Et ça fait partie de la démocratie que d'accepter que ça n'a pas marché et que pas nécessairement qu'il n'y a pas eu tricherie et qu'on a surveillé soi-même les élections et qu'on ait le courage de féliciter les challengers. Et enfin, le professeur Tshibangu l'a dit, c'est le respect mutuel entre candidats. Et j'ai beaucoup apprécié le comportement de Mitt Romney qui a félicité Obama et qui lui a souhaité bonne chance. Et j'ai apprécié le retour d'Obama qui a non seulement félicité Mitt Romney, mais même sa famille. Elle les a félicités. Donc ça c'est quand même une grande leçon.
Alors, professeur Arsène Mouaka, dans sa première leçon, le professeur Tshibangu a parlé de stabilité et de régularité des institutions américaines. En ce qui concerne l'Afrique, ne faudrait-il pas laisser un certain temps à l'Afrique, parce que les États-Unis, ça fait quand même 200 ans d'histoire. politique.
Oui, je crois que le prof l'a très bien dit. Il y a quand même une histoire. Ça fait 2 siècles. On n'a jamais appris que quelqu'un a voulu prolonger les mandats, alors les gens ont pris les armes, il y a M28, et ainsi de suite. Et donc, je crois que c'est toute une culture. C'est toute une culture, les Américains ont accepté la démocratie et depuis 200 ans, quelqu'un n'a jamais été tenté de se taper 3e mandat et 4e, modifier la constitution, et ainsi de suite.
En Afrique, on en est encore qu'à 50 ans, pratiquement, d'histoire politique.
Mais on peut rentrer à 50 ans de la démocratie américaine pour voir comment il s'est comporté à cette période-là. Nous allons constater que c'était comme aujourd'hui. Et donc moi, je crois que c'est ça le génie de l'Amérique. Et nous devons l'accepter, même ceux qui n'aiment pas l'Amérique, ils doivent accepter que quelque chose marche. Et là, moi, je crois que nous, comme Congolais, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de copier et de coller, si ça peut être possible.
Voilà, copier et coller, si cela est possible. Excusez-moi de rire ainsi. Professeur Komi Toulabor, vous êtes directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde à Bordeaux en France. Vous travaillez sur les problèmes électoraux. Professeur, vous avez suivi vos collègues. Quant à vous, quelles sont les leçons que vous avez tirées de ce scrutin?
Écoutez, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je pense que mes deux prédécesseurs ont dit l'essentiel, et notamment le professeur Tshibangu et le professeur Mwaka, c'est ça?
Oui.
Et je prononce bien leur nom?
Effectivement.
Okay. Bon, quant à moi, qu'est-ce que je tire comme leçon à travers ces élections qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis? Bon, c'est difficile de parler après quand tout a été dit, mais quand même j'ajouterai 2 ou 3 choses. Tout d'abord, je dirais que, et là ça n'a pas été souligné, c'est de voir aussi du côté des électeurs. Ça a été abordé en biais par mes deux prédécesseurs, mais je voudrais insister là-dessus, et c'est ce que j'appellerais le choix convictionnel, plutôt que d'employer le terme choix rationnel qu'on trouve dans nos manuels de sciences politiques. Choix convictionnel, pourquoi? Parce que, bon, je pense que les électeurs américains ont acquis une certaine maturité, pour ne pas dire une maturité politique certaine, pour choisir en fonction de leurs convictions. C'est pour ça que je dis leur choix est convictionnel. Parce que vous avez des candidats, je dirais diamétralement opposés, René d'un côté et Obama. Obama qui est le candidat sortant et l'autre qui vient et avec, il faut pas oublier quand même qu'il y a eu des primaires et que la campagne électorale s'est engagée et on a vu tout de suite que le candidat républicain avec le gaffe qui manque de densité politique sur les problèmes géopolitiques manque vraiment de culture, etc. Et tout de suite se présente les mêmes. Bon, c'est dans sa biographie, hein, ça, dans son parcours, que bon, c'est le candidat des riches, ça renvoie un peu à la France où Nicolas Sarkozy est présenté à tort ou à raison comme le candidat des riches, etc. Si bien que Romney tout de suite a été, je dirais, quelque part affublé de toutes sortes de préjugés défavorables à lui. Par contre, Obama est présenté comme le candidat idéal, ce qui était déjà le cas en 2008 déjà, hein. Mais usé par 4 années passées à la Maison Blanche, mais quand même il reste parce que le candidat républicain ne fait que ressortir les qualités de Obama en creux, en tête. Si bien que bon, les électeurs disent ben nous on préfère finalement celui dont on est habitué déjà depuis 4 ans, tout ce qu'il a fait, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce qu'il ne faut pas oublier. C'est le parti républicain avec W. Bush qui a mis vraiment les États-Unis à terre avec la guerre en Irak et en Afghanistan, etc., avec les déficits budgétaires colossaux, la dette publique qui a monté, et je ne sais pas comment ils vont faire pour résoudre ce problème-là. En fait, c'est un défi pour Obama. Donc, on a un choix convictionnel de la part des électeurs, et ça, je rejoins mes collègues qui ont parlé, à savoir que, bon, Moi, j'ai une admiration pour la démocratie américaine, surtout quand on lit Tocqueville, qui déjà est un fervent partisan et qui fait l'éloge de la démocratie américaine. Et je suis partisan de cette démocratie-là parce qu'il y a quelque chose qui toujours, par rapport à ma démocratie à moi, je veux dire ma démocratie française, il y a quelque chose de plus dans la démocratie américaine qui me plaît beaucoup. Et ça, je voudrais le souligner. Deuxième leçon que je voudrais tirer, c'est ça a été dit, mais j'insisterai un peu plus, mais par un autre côté, c'est la transparence des élections. Mais j'ajouterais que bon, aux États-Unis, on vote par électronique. Le vote électronique, bon, ça fait partie de leur culture, mais en même temps, c'est dire que bon, le vote électronique ne garantit pas en soi la transparence des élections. Et c'est vrai que bon, en 2000, avec Al Gore, on a assisté là à des fraudes massives et dans l'état de, je crois, de la Floride, je crois, et où le petit frère de W. Bush était le gouverneur. Bon, et donc Al Gore, bien qu'ayant obtenu plus de voix que W. Bush, bon, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a validé, etc. Professeur. Et ce qui pose problème jusqu'à présent. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a eu des fautes? Sûrement, il y a eu des petites fautes quelque part. Parce qu'il n'y a jamais eu d'élection transparente, pure et claire, nette, idéale. Il y a toujours quelque part des fautes.
Professeur.
Parce que bon, quand vous allez sur Internet, vous allez voir que bon, certains électeurs soulignent des micro-fraudes à des endroits, etc.
Professeur.
Donc la transparence n'est pas totale, mais c'est important de souligner que globalement, et c'est là, peut-être je suis dans l'ambiguïté, c'est que bon, dans les élections en Afrique, on dit que les élections sont globalement transparentes, donc on valide, etc. Mais ce n'est pas le cas ici. Et
merci.
Et je termine là, je pense que bon, vous me pressez un peu, je termine. C'est que bon, il y a eu un ouragan tout à l'heure aux États-Unis, c'est l'ouragan Sandy. Et que malgré l'ouragan Sandy, on a quand même voté dans l'État de New York. Et c'est important. Autrement dit, cette démocratie-là est assurée dans sa pérennité. Je reprends le terme de mon collègue, la régularité et la périodicité.
Merci.
Et tout ça est assuré à travers... Donc, à travers ces élections américaines, nos pays africains, surtout francophones, on a beaucoup de leçons à tirer.
Merci, professeur. Je vous retrouve dans le second tour des tables. Professeur Chibangu, il y a Olivier Kabata qui dit « Nous n'avons rien à tirer de ces élections américaines. Combien de fois le peuple congolais et africain ont suivi de plus près les élections européennes, américaines, même dans certains pays africains, sans manifester l'intérêt du changement dans la gestion et dans la façon d'organiser les élections, professeur ?»
Oui. Écoutez, je crois que l'auditeur a raison de voir que, bon, malgré ces exemples, c'est pas la première fois qu'on assiste aux élections américaines ou européennes, mais nous n'arrivons pas à tirer des leçons. Il ne suffit pas de tirer des leçons, mais il faut les appliquer. C'est ça le problème. Et qui applique ces leçons? On vient s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Il faut voir ce qui se passe chez le voisin. Mais ce sont les dirigeants et le peuple concerné qui doivent transformer ces leçons, ces exemples qui se passent chez les voisins, les transformer en décisions politiques dans leur propre pays, les transformer en loi, en pratique dans leur propre pays. Tout à l'heure, on parlait de la question, disait, bon, écoutez, mais nous sommes encore jeunes, c'est à peine 50 ans, les États-Unis c'est 235 ans, etc. Mais vous savez, quand les Américains, les pionniers, ou qu'on appelle là-bas les pères fondateurs, ont installé ce système, mais qu'est-ce qu'il y avait aux États-Unis? Il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone ou d'internet. À l'époque, le seul moyen de déplacement, c'était le cheval, sur un pays immense, plus vaste que la Suède. Et ça marchait. Ils ont lancé ce système au 19e siècle, au 18e siècle, et ça marche jusqu'aujourd'hui. Et donc nous avons 50 ans, c'est suffisant. On peut justement commencer à bien faire les choses. Nous parlons de la transparence des élections. Mais je suis content d'avoir sur ce plateau de Radio Okapi un parlementaire. Pour arriver à faire en sorte que dans notre pays, qu'il n'y ait pas de contestation des élections. Si aux États-Unis, on n'a pas contesté les élections, et que les deux candidats se sont embrassés, se sont félicités, c'est parce que les choses se sont bien passées. Rassurez-vous, s'il y a des fraudes électorales aux États-Unis, eh bien, il y aura la contestation. On a vu l'exemple en 2000. Et donc, le point de départ, c'est de bien organiser les élections. Aujourd'hui, on se bat à l'Assemblée nationale, disons au Parlement, pour avoir une nouvelle CENI, restructurer, etc. C'est bien beau. Mais le point de départ, le plus important, c'est la loi électorale. C'est là où on doit assurer la transparence, le caractère honnête des élections. Et donc, il faut réviser la loi électorale, et le plus vite possible, avant les prochaines élections.
Alors, professeur, dans votre première intervention, j'ai noté les leçons 4 et 5. Vous parlez au niveau de la quatrième leçon, vous dites qu'il n'y a pas eu de distribution d'argent, pas d'achat de conscience. Et la cinquième leçon, les gens se rendent en politique pour rendre service, mais face à la précarité économique dans laquelle se trouve l'Afrique, est-il possible de concilier les deux?
Oui, écoutez, il faut moraliser la vie publique dans notre pays et en Afrique d'une manière générale. Il est inconcevable, n'est-ce pas, que le peuple, vous voulez rendre service à une communauté, mais la communauté vous vend ces services-là, alors que vous voulez rendre les services gratuitement. Mais la communauté vous dit que si vous voulez me rendre service, eh bien, vous devez me donner de l'argent. C'est comme un propriétaire qui a une maison qui est en train de brûler. Il y a des pompiers qui arrivent pour éteindre le feu. Il dit aux pompiers, écoutez, si vous voulez éteindre le feu, sauver ma maison, il faut d'abord me donner de l'argent. C'est pas possible. On marche à fond renversé. On marche sur la tête. N'est-ce pas? Et donc, je pense qu'il y a moyen de bien concilier les choses. Moi, je suis d'avis qu'il faut voter une loi dans notre pays interdisant la distribution des biens matériels, de l'argent, pour acheter les votes de la population. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'avilissement, c'est la barbarie généralisée. Il faut y mettre fin. Et je termine sur cette question pour dire que ce qui se passe aux États-Unis, nous l'avons vu, c'est quoi? C'est la population qui cotise l'argent pour financer la campagne des candidats. Et alors, lorsque une population s'est mobilisée pour vous, vous a soutenu, vous a donné les moyens, lorsque vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez le faire, comme Obama l'a dit, passer chaque minute de sa vie, chaque seconde de son mandat, pour travailler pour le peuple, pour la population, pour les enfants, pour que les choses marchent bien. Parce qu'on vous a donné une charge importante dans votre pays, gratuitement. Vous ne l'avez pas acheté avec de l'argent. Le peuple vous a manifesté son amour, n'est-ce pas? Vous a soutenu gratuitement. Et une fois que vous êtes aux responsabilités, eh bien vous allez tout faire pour que ce peuple vive mieux. Et il faut arriver à cela.
Professeur Arsène Mouaka, le professeur Komi Toulabor a parlé d'un choix convictionnel en parlant des électeurs, mais quand on sait qu'en Afrique le choix est identitaire, racial, tribal, l'Afrique qui est basée sur ce fondement clanique et tribal, peut-on finalement un jour se départir de cet aspect des choses?
Moi, je crois que c'est une généralisation abusive. Ce que vous venez d'avancer, puisque je crois que nous pouvons, par exemple, tirer les leçons de nos élections à 2006. Les gens ont parlé d'une régionalisation, qu'il y aurait deux régions, une région, je ne sais pas, de l'Ouest et l'autre de l'Est, et ainsi de suite. C'était déjà une évolution. Si dans nos élections, nous pouvons arriver à des provinces qui se regroupent et qui s'alignent derrière tel ou tel autre candidat, je crois que c'est déjà une évolution. Ça ne sera pas du clanisme, ça ne sera pas de l'ethnicité, et ainsi de suite. Maintenant, je crois que nous devons continuer à travailler, et c'est là peut-être que les choix politiques posent problème, parce que quand vous lisez notre budget, il n'y a rien dans le sens de la consolidation de la démocratie. Nous ne faisons pas de la démocratie un projet dans ces pays sur lesquels il faut travailler. Vous verrez que le côté politique, quand vous lisez le budget de la République, on vous dira, bon, il y a la guerre, il y a la CENI, et puis c'est tout. Et donc, il n'y a rien dans le sens de dire, nous devons faire des émissions ou je sais pas, tout ça. Si on veut mettre quelque chose, on met quelque chose de très flou comme la nouvelle citoyenneté, des trucs de ce genre, plutôt que de faire clairement un projet qui va dans le sens de travailler pour la démocratie. Donc je crois que il y a des efforts que nous devons fournir, mais nous ne serons pas si réducteurs à croire que tout est ethnique, tout est clanique. Il y a des exemples. Dans ma province, par exemple, nous avons vu l'élection de noms comme Villa Kikanda. C'est du mobutisme qui pratiquement nous donne au compte de Villa Kikanda. puisqu'à cette époque, on pouvait affecter le gouverneur à tel endroit, il a très bien travaillé là-bas, les gens ont été convaincus, comme venait de le dire le professeur Komi, les gens ont été convaincus, et Kondé Vila-Kikanda a été premier. Alors qu'il y avait des fils de la province qui étaient là.
Alors professeur, on a aussi remarqué, vous l'avez tous relevé, le respect mutuel entre les candidats, et on a senti que ce soit de la part de Barack Obama ou de Mitt Romney qu'ils mettaient l'accent sur la cohésion nationale. Visiblement, dans plusieurs pays africains, ça manque.
Oui, je crois que nous devons améliorer notre système. Je l'ai souligné, en Amérique, les partis travaillent. Ce ne sont pas des petites machines qu'on va bousculer à la veille des élections. Et donc, il y a des processus, il y a des sélections, il y a des élections primaires, des candidats à la candidature, et ainsi de suite. Tout celui qui a des choses à raconter, il les raconte au sein du parti. Et le parti choisit les meilleurs d'entre ses combattants. Le meilleur. Et donc là, on a la classe, on a déjà bien éduqué, puisque au moins, comme le professeur Tshibangu l'a dit, la moralisation publique. Je crois que c'est le côté fort des États-Unis. Il y a évidemment d'autres pays comme la Suède, ainsi de suite, où on ne peut pas se permettre n'importe quoi quand on est à la tête d'une république ou quand on veut aspirer à la charge publique. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mais il est dommage que chez nous, par exemple, la Constitution dit que ceux qui s'engagent pour la charge publique doivent déclarer leurs biens. Et puis, il ne les faut pas, ils sont à l'aise. Et ils ne doivent pas se retrouver dans des compétitions à terme de marchés publics. Ils sont là. Ils ne doivent pas être commerçants. Et ils sont commerçants. Ils ont des supermarchés connus, et ainsi de suite. Et donc, je crois que c'est de ces côtés-là que nous devons davantage travailler pour qu'il y ait des valeurs et pour que nous puissions avoir des campagnes électorales de qualité. Ça dépend des individus qu'on présente.
Après l'annonce de la victoire de Barack Obama, plusieurs Congolais n'ont pas manqué de s'exprimer sur cette élection américaine. Écoutons-les au micro d'Askenzik Biatayoro.
C'est la victoire du peuple américain d'abord. Et en ce qui concerne nous les Africains, eh ben, nous espérons qu'avec sa réélection, il pourra vraiment activer la diplomatie internationale des États-Unis. Et spécialement en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il doit mettre beaucoup plus d'action pour l'émergence de la démocratie, de la liberté d'opinion, du pluralisme politique, des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Nous avons suivi le processus de la réélection de Barack Obama. Et je crois que ça va encore une fois de plus être significatif, la réélection, dans la mesure où il y a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées par les Africains à Barack Obama. Il n'a pas beaucoup fait pour l'Afrique. Et nous pensons qu'avec ce deuxième mandat, il pourra faire quelque chose pour l'Afrique, et particulièrement pour notre pays. Et je crois que du côté de la transparence, il n'y a pas à discuter.
Donc c'est une victoire pour nous, ceux qui cherchent le changement, et je suis vraiment très content.
Alors, professeur Arsène Mouaka, à travers ces auditeurs, on aborde déjà la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre du deuxième mandat de Barack Obama s'agissant de la situation sécuritaire en RDC? Certains des auditeurs ont donné leur point de vue. Il y en a d'autres. C'est le cas de Charles Ankwoch de Dungu en province orientale. Pour la situation sécuritaire à l'est du pays, nous n'avons rien à espérer de cette élection du président américain pour notre pays. C'est le prolongement du calvaire à l'est du pays et le statu quo. Lambert de Goma en Nord Kivu, la réélection d'Obama est un avantage pour la RDC parce qu'Obama n'aime pas la guerre à l'est du Congo. La preuve est qu'il est le président américain qui a décrété un embargo sur les minerais en province de l'est de la RDC, professeur.
Oh, bon, je crois à partir ils ont raison, à partir ils n'ont pas raison. On ne peut pas dire qu'on ne peut rien espérer du tout, puisque pendant le premier mandat, il y a eu des actions, mais je sais que la plupart des Congolais veulent attendre qu'Obama a dit à Kagame de se retirer du Congo et de foutre la paix au Congo. Ça, c'est ce qui est attendu. Je crois que les États ont des intérêts. Nous n'allons pas imposer aux États-Unis d'adopter le comportement que nous voulons. Nous devons comprendre que notre pays nous appartient, nous devons nous assumer. Il est vrai qu'il y a eu de petites actions, notamment des actions à terme d'engagement au nord-est du pays contre
la LRA.
Et l'engagement contre les violences sexuelles, contre le minerai pillé, et ainsi de suite. Bon, je semble croire que ce sont de bonnes actions, mais des actions qui ne changent pas fondamentalement la situation à l'est. Et c'est peut-être ce qu'expriment les auditeurs qui sont exaspérés de voir que pratiquement il n'y aura rien, puisque il y avait à côté un Mitt Romney qui pratiquement de manière tranchée pointer un certain nombre de choses pour dire, bon, nous allons nous occuper d'un certain nombre de régimes, notamment les Zimbabwe, le Soudan et la République démocratique du Congo. Il y en a qui auraient souhaité qu'Obama soit si tranché que ça. Bon, c'est dommage, il n'est pas notre président, c'est un président américain.
Professeur Komi, tout d'abord, en ce qui concerne la sécurité à l'Est et l'élection de Barack Obama, Olivier Kabata dit, pour ce qui est de l'Est de la RDC, les États-Unis ont montré leur position en soutenant la candidature du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le premier mandat d'Obama est égal au deuxième mandat en termes de politique africaine. Quel est votre avis?
Oui, il faut dire que le premier mandat d'Obama sur le plan de sa politique africaine a été, je dirais, décevant. Il faut dire les choses clairement. Mais je comprends par rapport à la RDC d'une façon globale. Pourquoi? Tout simplement parce que la RDC est pour les États-Unis un État stratégique, je dirais même un État chéri. En ce sens que, ben, il faut pas oublier que c'est la RDC qui a fourni l'uranium pour la fabrication de la première bombe atomique sur Hiroshima. Et donc, pour les États-Unis, il n'est pas question que cet État soit déstabilisé. Et là, bon, c'est mon deuxième élément, parce que je voudrais aller très très vite, c'est mon deuxième élément, c'est-à-dire que, bon, à l'heure actuelle, la démocratie, sur le plan international, est une donnée, je dirais, accessoire par rapport à des enjeux qui paraissent plus fondamentaux, à savoir la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes, de drogue, l'immigration, etc. Ce sont les thèmes prioritaires à l'agenda international à l'heure actuelle. Si bien que quand on regarde dans les forums internationaux, etc., en ce qui concerne la démocratisation des pays africains, c'est quelque chose de vraiment accessoire à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que, bon, voilà, je ne porte pas, c'est un constat. Si bien que, bon, Obama, ben, il n'est pas africain, même s'il a des origines africaines. Obama est américain. Il défend les intérêts de son pays. Et les intérêts de son pays, c'est de conserver la RDC dans le giron occidental et est obligé, et c'est mon troisième élément, de faire avec le régime en place, à savoir Kabila. Les élections de novembre 2011, j'étais là sur votre radio qui m'a invité justement, et j'ai vu de mes yeux un peu, je n'étais pas là en tant qu'observateur des élections, mais on a vu quand même un peu comment les choses se passent. Et toute la communauté internationale, et c'est la première fois en Afrique, la communauté internationale dans son ensemble condamne une élection dans un pays africain, les États-Unis, etc., tout le monde a condamné ces élections-là, qu'elles ont été frauduleuses. Très bien, ok, mais la suite des événements, c'est quoi? C'est que, en fait, on reconnaît ces élections-là de façon, je dirais, pragmatique. C'est-à-dire qu'on collabore avec le régime en place, avec Kabila, ça veut dire quoi? C'est qu'on reconnaît sa réélection. Et alors que, bon, dans le discours, on condamne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, écoute, est-ce que un État occidental a les moyens de venir déguerpir Kabila ou un autre président africain, je ne sais pas, sort son frère togolais du pouvoir? Je ne pense pas. La France, etc., n'ont pas les moyens de déguerpir un président africain qui est mal élu du pouvoir.
Merci, professeur.
Et donc, ça... Si, excusez-moi, je termine là, si les électeurs ou les citoyens congolais et d'une façon générale africains se remet entre les mains des puissances occidentales, ça signifie que, ben, c'est que nos dirigeants ont failli, tout simplement. Parce que bon, ils n'ont rien à attendre des dirigeants étrangers, mais voilà, qui se tournent vers les dirigeants extérieurs, parce que bon, peut-être auprès d'eux, ils trouveront ce qu'ils n'ont jamais trouvé dans leur propre pays auprès de leurs dirigeants.
Merci, professeur. Professeur Chibangu, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Donc, je demanderai des réponses assez brèves. Il y a Salomon de Kisangani en province orientale qui dit, on ne peut pas attendre directement des élections présidentielles américaines une solution au conflit armé congolais, car le président Obama est élu par les Américains pour les Américains. Comptons plus sur nos forces armées congolaises ainsi que sur la MONUSCO, professeur.
Oui, l'auditeur a parfaitement raison. Il faut enlever toute naïveté dans ce genre de choses. Bon, Obama a été élu par les Américains pour résoudre les problèmes des États-Unis et les problèmes des Américains. On ne l'a pas élu pour venir résoudre les problèmes de la RDC ou de l'Afrique. Et c'est tout à fait normal. En ce qui concerne la situation qui prévaut dans la partie de notre pays, eh bien, la responsabilité pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité sur notre territoire incombe aux autorités congolaises, à notre armée, à nos forces de sécurité, à notre peuple. On ne va pas demander à un autre pays pour venir faire ce travail-là. Donc nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Mais tout de même, la situation qui se passe à l'Est a des répercussions internationales. Il y a des interventions étrangères. On l'a dit assez, ce sujet. Et là, c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les États-Unis sont un membre permanent. C'est eux qui prennent des décisions. On peut espérer que, compte tenu de ce qui se passe actuellement, et c'est une situation qui est bien connue d'Obama lui-même, parce qu'il ne vient pas d'arriver au pouvoir maintenant, eh bien, nous pensons que les États-Unis vont jouer un rôle actif. Bien. De manière à pousser le Conseil de sécurité à prendre les décisions qu'il faut pour mettre fin à cette situation. Comme l'Afrique tout entière l'a demandé, et notre gouvernement a demandé aussi cela. Eh bien, on peut, et là, c'est notre diplomatie qui doit contacter ces grandes puissances pour qu'on prenne les décisions qu'il faut de manière à nous aider à régler ce problème qui est créé aussi par la communauté internationale. On ne doit pas perdre de vue de cela. Là, c'est depuis l'arrivée des Rwandais ici, en 1994, que nous avons une situation pourrie à l'Est.
Merci.
Et donc, il faut que la communauté internationale nous donne un coup de pouce pour que nous puissions régler ça.
Professeur Arsène Mouaka, en parlant de diplomatie, Matembera Kairi de Kalemi au Katanga dit, je voudrais savoir quel est l'état de santé de notre politique étrangère pour espérer quelque chose des États-Unis d'Amérique, professeur.
Oui, bon, je crois qu'il ne peut pas y avoir de politique d'affaires étrangères si à l'intérieur il n'y a rien. Ce qui vient d'être souligné, c'est que nous devons avoir un contenu pour qu'à l'extérieur nous puissions raisonner. Et donc, notre armée est ce qu'elle est, sur le plan politique, il n'y a pas de rigueur, si déjà nous sommes incapables de déclarer à haute voix que nous sommes agressés et de mobiliser des mécanismes prévus par la Constitution, état de siège, état d'urgence, déclarer la guerre à un état qui nous agresse. Si nous sommes déjà incapables de pleurer quand nous sommes agressés, on est incapable de pleurer. Alors, je crois qu'il n'y aura aucune diplomatie. Et donc, je crois que la seule chose que nous devons faire, c'est de réorganiser les choses, de croire que nous n'avons pas à face de nous une grande puissance, puisque le Rwanda, c'est quand même un État africain connu, qui n'a pas une seule usine de fabrication de flèches et de lances. En tout cas, c'est un État comme tous les autres États. Et je suis très surpris que dans les têtes des Congolais qu'on a émis, que nous sommes à face d'une grande puissance militaire. Je suis très surpris.
Alors donc, il appartient à chaque diplomatie africaine de se déterminer, professeur.
Absolument. Nous devons être les principaux acteurs de notre situation et je semble croire que tant que nous ne changeons pas de rapport de force sur le terrain, nous ne pouvons espérer à rien dans ce qu'on appelle diplomatie ici au Congo.
Et en guise de conclusion, professeur, par rapport à l'élection de Barack Obama, pour les auditeurs qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir?
Il semble croire que nous devons être gentils, être contents quand le voisin réussit. Et nous devons pas avoir la honte de prendre ce qui est positif chez lui pour essayer de le capitaliser chez nous. Je crois qu'il y a un élément essentiel en tant que partisan de la démocratie chrétienne. Tout ce que je peux dire, nous devons cultiver des valeurs et amener des hommes de valeur à la tête de nos pays et ça nous fera moins de problèmes.
Professeur Komi, tout d'abord, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir en guise de conclusion?
En guise de conclusion, je dirais tout simplement que pour l'Afrique, quelque part, si on a beaucoup de choses à reprocher au premier mandat de Obama concernant l'Afrique, que bon, il vaut mieux qu'il soit réélu que son adversaire, le Tournois.
Merci, professeur. Professeur Chibangu, conclusion déjà.
En conclusion, je me redis que le système américain fonctionne bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est un bon système. Nous pouvons nous en inspirer ici dans notre pays et en Afrique de manière générale pour prendre ce qui est bon, notamment la stabilité, la régularité, l'organisation des élections à intervalles réguliers, dans la transparence, dans l'honnêteté, pour éviter des problèmes que nous avons en Afrique et en raison notamment des contestations des élections. Donc c'est un bon exemple, on peut s'en inspirer.
Merci professeur Chibangu Kalala. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa et Bruxelles, aussi président du parti politique Notre Beau Pays.
Professeur Arsène Mouaka, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur Komi Toulabor, directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Afriques dans le monde à Bordeaux en France et travaille sur les problèmes électoraux. Voilà les invités que j'ai reçus. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.